Héritage fatal, belle-mère et le chat patriote. Camille Bias. Héritage fatal. Le flot l'avait déposé là, sur le sable. Il l'avait apportée doucement car elle gardait dans la mort cette attitude du sommeil dont le rêve est paisible. Ses yeux clos semblaient contempler sous la paupière lourde quelque chose en elle-même. Elle souriait aux anges comme les enfants endormis selon une expression populaire. Sa lourde chevelure d'or, à demi séchée par le premier rayon de soleil du jour, lui servait à la fois d'oreiller et de cadre. Ses vêtements très soignés étaient ceux d'une ouvrière. Sa main longue, aux doigts effilés qui ne portaient trace d'aucun travail, donnait un démenti au costume. On n'y songeait pas, on ne raisonnait point, ne voyant d'elle que son idéale beauté qu'avait respectée la mort. Après les pêcheurs qui venaient de la découvrir au lever du soleil sur la grève, les curieux accoururent et se massèrent autour d'elle. On saisissait parmi eux des lambeaux de phrases admiratives et désolées. Quel malheur! Si jeune et si belle! C'est sûrement un désespoir d'amour. D'aucuns affirmaient la chose et vraiment, elle était vraisemblable. Quelle autre raison eût conduit au suicide cette suave adolescente? Cela pouvait être un accident, mais elle ne venait pas de loin. La mort était récente et les accidents ne sont pas des mystères comme cette mort étrange en présentait un. On ne trouva sur elle aucun papier. Un porte-monnaie fort simple dans une de ses poches contenant une centaine de francs. C'était tout. La misère devait être écartée du drame, quoiqu'elle ne portât pas un bijou. Nulle amulette souvenir ou superstition de jeune fille venait aider à découvrir une identité qu'elle avait voulu dérober, sans doute. Personne ne la reconnut. La ville de Dieppe, tout entière, vint la voir inutilement. Tout à coup, un bruit étrange se répandit. Cette beauté si pure, ce corps si parfait, ce visage angélique, cachait une corruption physique épouvantable. Des hommes avaient eu l'impudique curiosité de regarder cette morte, sans voile. Ils s'étaient reculés, pris de dégoût. Le bruit mauvais venait d'eux. Et chacun à présent s'écartait de la suicidée, lui jetant le mépris du silence moqueur ou le rire chargé de quolibets plus ou moins malséants. Plus de pitié à présent pour cette mort volontaire, plus de romans d'amour pour ce désespoir d'enfant. On s'en allait plus vite qu'on était venu. La curiosité semblait prise de honte pudique. Le commissaire de police la fit emmener. Un médecin, appelé pour constater le décès, s'indigna des plaisanteries grossières à l'adresse de cette victime du sort ou des hommes. Il regarda sévèrement son entourage et aux femmes qui riaient, aux hommes qui raillaient. Il jeta cette phrase qui les confondit. « Cet enfant est une vierge. » On fit une enquête inutile, puis les funérailles furent ordonnées. Cela se fit sans bruit, comme un acte qu'on veut cacher. Il était resté quelque chose d'obscur et d'inquiétant sur cette morte. Ce soir-là même, deux femmes en deuil, toutes les deux voilées, arrivèrent par l'express et se rendirent chez le commissaire de police. on exhuma la jeune noyée. Toutes les deux la reconnurent. L'une d'elles s'évanouit. C'était sa mère. La pauvre suicidée appartenait à une famille aristocratique et riche, fort connue. Pour qu'on ne fît pas de bruit autour de sa mort, elle était venue seule, de Paris à Dieppe, habillée en ouvrière, avec ce courage et cette tranquillité que donne la pensée du sacrifice volontaire résolu. Elle croyait en mourant accomplir un devoir. La mère revint à la vie. Ce fut un désespoir sans nom, muet et farouche. L'autre femme, la sœur de celle-ci, sanglotait. Toutes les deux étaient veuves, et elles n'avaient, à elles deux, d'autre amour que l'enfant qui était venu mourir là. Sans larmes, la mère dit à l'autre « Viens, allons mourir où elle est morte. » « Non, répondit la sœur, nous ne lui serions pas réunis dans la tombe. » C'est vrai, emportons-la. L'histoire de l'enfant était simple et navrante. Elle était née parmi les privilégiés et avait grandi, adorée entre sa mère et sa tante, deux protections comme l'amour les crée. Puis, dès l'âge de 16 ans, elle avait aimé un homme qui l'aimait aussi. Ce bonheur la rendit triste. Elle rechercha la solitude. On eut recours au médecin, ce fut inutile. Elle était atteinte d'un mal incurable. L'eczéma ayant respecté le buste et le visage, on pouvait la croire sainte, mais elle avait hérité de sa mère ce mal maudit et devait fatalement le transmettre à ses enfants. Après une année d'affectueuse intimité, l'homme qu'elle aimait demanda sa main. Elle s'y attendait et pourtant, ce fut un coup mortel. Elle s'était prêtée à tous les soins, conservant une espérance vague. Elle avait lutté héroïquement contre le mal et le mal était vainqueur. « J'étais comme toi, » lui dit la mère, « et pourtant je me suis mariée. » « Oui, » répondit-elle. Et je suis née. » Il y avait un reproche involontaire dans ce cri de désespoir. La mère courba la tête comme une coupable qu'elle était, se repentant. « Oh maman, pardonne-moi, mais je l'aime trop pour le tromper ou pour l'exposer à souffrir. » « Ce que tu souffres, n'est-ce pas ? » acheva la malheureuse mère. « Mais essaie encore. » « Je t'en supplie, le docteur espère. » Elle le voulut bien, le médecin était un ami. Il essaya d'endormir le mal moral, ne pouvant rien contre le mal physique. Il ne trouvait pas le courage de dire à cet adorable enfant qu'elle était irrévocablement condamnée. Alors, elle s'en alla, un matin, toute seule, à la consultation d'un hospice. Et là, elle apprit brutalement la vérité. Elle ne pouvait guérir et le mal serait à jamais héréditaire. Elle ne voulut pas que des enfants fussent malheureux comme elle l'était. Mais hélas, elle aimait la pauvre fille. Et elle eut peur d'une faiblesse qui la conduirait à cette faute dont elle accusait sa mère. Elle disparut un soir pour mourir. Les deux mères et le fiancé la cherchèrent et ne trouvèrent rien. Pas un mot, pas un adieu, pas un indice. Dans sa jolie chambre de vierge, encore parfumée de la violette qu'elle aimait, il n'y avait qu'un itinéraire de chemin de fer. Le jeune homme le prit, tout simplement peut-être parce qu'elle l'avait touché, sans espoir certainement d'y trouver ce qu'il cherchait. Il le parcourait cependant, il s'arrêta au mot « Dieppe », sous lequel une marque à peine visible tracé avec l'ongle, fut la révélation. Les yeux des deux femmes, trop voilées de larmes, ne l'eussent pas trouvée. Elles partirent. Et c'est ainsi qu'elles retrouvèrent l'enfant. Elles sont mortes à présent, consolées à la dernière heure par la pensée suprême de la réunion. Quant au fiancé, puisqu'il ne s'est pas fait ermite, il se consolera. À 30 ans, le ciel d'azur fait oublier l'orage de la veille. Belle-mère. 18 ans, une beauté réelle, une fortune bien assise, un mari qui l'aimait et à qui elle s'était donnée par amour, toutes ces chances de bonheur ne pouvaient empêcher la jeune femme de souffrir. Sa belle-mère la gênait. C'est que Madame Serraval aimait son fils, pour lequel, restée veuve à 24 ans, elle ne s'était jamais remariée. Et elle était encore belle, cette femme, dont la vie s'était écoulée sans secousse à élever doucement son enfant. Et celui-ci lui avait rendu ses tendresses, les lui rendait encore à profusion, comme pour lui faire oublier qu'un autre amour avait pris place dans son cœur de 20 ans. C'est de cela, surtout, que Nelly, sa femme, se montrait jalouse. L'éloge incessant de sa belle-mère sur les lèvres de son mari, l'admiration réelle qu'excitait parmi les amis de la famille le caractère et l'abnégation de la veuve, admiration dont l'écho remplissait jusqu'à son alcôve, irritait cette bru, enfant gâtée, élevée par une aïeule fort âgée qui n'avait eu d'autre volonté que la sienne. Madame Serraval ne s'y trompait pas. Elle cherchait, sans le trouver, le remède à cette maladie terrible qui s'appelle la jalousie, espérant que son cher Ferdinand, jusqu'à la aveugle, n'en souffrirait pas. D'abord, sous prétexte de santé, elle refusa de suivre ses enfants à Paris pendant l'hiver. Ce fut un immense sacrifice dont elle crut trouver la récompense à leur retour. En effet, Nelly se montra avec elle plus affectueuse et ce fut pour la pauvre femme une véritable joie. Sa belle-fille avait compris, sans doute, la grandeur de son abnégation et lui savait gré de sa souffrance voulue. Il n'en était rien, hélas. La jeune femme s'était fort amusée pendant tout l'hiver, ce qui la forçait à de nombreuses invitations pour l'été. Les amis parisiens ne tardèrent pas à peupler cette belle, mais un peu trop silencieuse pour ses goûts mondains, campagne de Normandie où s'était passée sa lune de miel. Déjà, la joie expansive du fils, en revoyant sa mère, avait troublé l'esprit et le cœur de la folle Nelly. Ce fut pire quand Madame Serraval dut partager avec elle les hommages des visiteurs et que Ferdinand, encore sans défiance, étala devant tous son orgueil filial. Il y eut d'abord quelques taquineries, des bouderies sans motif plus ou moins longues, puis, Peu à peu, Nelly versa sur sa belle-mère tout ce qu'il y avait en elle de souffrance mal contenue, d'amertume volontaire, de colère injuste. Quelque effort que fit Madame Serraval pour dérober à son fils ce côté fâcheux du caractère de sa bru, il finit par s'en apercevoir. La veuve s'effaçait le plus possible. Sa quasi-réclusion, qu'il attribuait à un besoin de repos, ne suffisait pas aux exigences de la jeune femme. Il ouvrit les yeux et éprouva la première douleur de sa vie. Trouvant Nelly injuste, le pauvre garçon essaya de la raisonner. Mais raisonne-t-on la passion? Elle est sourde. Une volonté forte en vient quelquefois à bout. Un coup de foudre peut la tuer. Nelly ne possédait point cette volonté et les coups de foudre ne semblaient pas à craindre dans son existence privilégiée. L'enfant gâté se rebiffa contre les observations du mari. Elle en fit responsable sa belle-mère, prétendant que celle-ci s'était plainte. Puis, comme Ferdinand ne comprenait rien à sa déraisonnable jalousie, elle se promit de la faire souffrir à son tour de ce mal dont elle était atteinte. Un de ses cousins, jeune officier brillant qu'elle avait cependant refusé pour mari, était venu sur l'invitation pressante de Ferdinand passer un congé en Normandie. Elle fit, avec lui, la coquette. Madame Serraval découvrit vite ce petit manège dont elle comprit le but et surveilla, non point sa bru, qu'elle ne soupçonnait que d'enfantillage, mais l'officier qu'elle jugeait capable d'en abuser. Quand celui-ci annonça son départ forcé, l'union conjugale avait fait place à des querelles, encore discrètes, dont la jeune femme faisait sa belle-mère responsable. Ce jour-là, elle s'était montrée presque impertinente avec celle-ci, et comme son mari le lui avait reproché, elle boudait. Quand le soir vint, sa petite tête avait travaillé sur ce thème qui lui était favori. Il aime mieux sa mère que moi. L'exaltation monte vite vers une hauteur dont le sommet l'attire. Celle de Nelly se traduisait par des contractions de visage et de fréquents mouvements nerveux. L'officier venait de faire ses adieux. Tout lui échappait donc, même la petite vengeance conjugale à laquelle elle voulait faire servir cet ancien amoureux. Au moment où il traversait un couloir, elle se trouva près de lui et dit rapidement « Ne partez pas ce soir. Demain, à 6 heures du matin, je serai à la petite porte du parc. Il faut que je vous parle. » Que voulait-elle dire ou faire? Elle n'en savait rien. Elle agissait sous le coup d'une colère comme en ont les enfants mutins. Madame Serraval, qui traversait le couloir à quelques pas de là, avait entendu. Un peu avant 6 heures, par un coin de rideau soulevé dans sa chambre, elle vit sa belle-fille se diriger vers le parc. Elle hésitait sur le parti à prendre lorsque Ferdinand, soucieux d'avoir trouvé pour la première fois fermée la porte de la chambre à coucher de sa femme, s'en alla à son tour, le fusil sur l'épaule, suivant le même chemin, allant sûrement vers un même but. La petite porte désignée ouvrait sur un bois. Le jeune homme s'y dirigeait lentement, très rêveur. Madame Serraval se précipita par une voie plus courte, y fut avant lui et disparut dans le fourré. Nelly avait entraîné son cousin sans savoir, tout simplement peut-être parce qu'elle-même avait provoqué le rendez-vous et qu'il fallait en donner l'explication. Elle allait lui dire « Je suis malheureuse, j'ai besoin d'un conseil ami et j'ai pensé à vous pour me le donner, comme j'aurais pensé à le réclamer d'un frère ». Mais lui venait de passer une nuit blanche, heureuse. Il avait aimé Nelly. Il l'aimait encore. Il croyait à une bonne fortune inespérée. Pour une cause qu'il ne connaissait pas, et il lui importait peu du reste, sa cousine se jetait à lui. Il allait la prendre. Elle n'eut point le temps de parler et regretta vite son coup de tête. L'officier la saisit avant qu'elle eût le doute du danger, la serra sur son cœur, l'embrassa violemment. « Nelly, ma bien-aimée, laissez-moi !» Elle se débattait. « Non, tu m'aimes puisque tu es venue et il faut que je parte aujourd'hui. Laissez-moi, vous dis-je, je ne vous aime pas, je... » Il l'abandonna. Une femme se dressait devant eux, pâle, échevelée, tremblante. « Fuyez, ma fille, il vient par ici !» Le mot espion courut sur les lèvres de la coupable. « À la ferme, prenez ce sentier, vous y serez dans quelques minutes. » Elle la poussait, il était temps. Un lièvre passa, qui la fit trébucher, dans les jambes de la pauvre femme. Un coup de feu partit, Ferdinand apparut. L'embarras de l'officier qu'il croyait parti, la pâleur et le désordre de sa mère accusaient celle-ci. Le malheureux jeta son fusil et disparut à travers bois en jetant un cri terrible de malédiction. Nelly était encore à la ferme désignée par sa belle-mère quand Madame Serraval y arriva. « Mon enfant, dit la veuve, je pars. Votre mari me croit coupable. Tâchez qu'il ne me maudisse pas trop et aimez-le pour nous deux. » Le coup était violent. Une révolution se fit subite chez la jeune femme. Elle tomba aux genoux de sa belle-mère, vieillie en 1 heure de 10 années. « Jamais !» La mère, héroïque, la releva. « Il serait plus malheureux si c'était vous. » Puis, l'attirant et la forçant à relever les yeux, elle lui sourit. « Quand l'enfant sera venu, cela vous servira de prétexte pour me rappeler. Alors le bonheur apportera l'oubli ou le pardon. » Le chat patriote. C'était après le désastre de Buzenval. Du champ de bataille, jonché de morts et de mourants, ne s'échappaient plus que des plaintes basses, à peine saisissables dans ce silence lugubre qui suit l'infernal tapage des rapides combats de nos jours. Les hommes, mortellement blessés, fermaient les yeux pour ne point voir et les lèvres pour ne pas attirer les regards d'un ennemi vainqueur sur l'immense désespoir du sacrifice inutile qui torturait leur agonie. Les chevaux eux-mêmes mouraient en silence, comme s'ils comprenaient l'horreur de l'immense hécatombe. Sous quelques cadavres de soldats tombés à la même place, un mouvement se fait, léger d'abord, puis plus accentué, puis tout à coup violent. Alors, un bras d'homme sortit du monticule humain, repoussant avec l'énergie de l'effort suprême le poids qui lui écrasait la poitrine. Une autre main apparut, engourdie, aux doigts rebelles, mais qui, fortement frottée et excitée par l'autre, se retrouva bientôt agissante. Alors, se faisant de ses coudes deux points d'appui, le blessé put relever la tête, mais il la laissa retomber, fermant les yeux. Un évanouissement lui avait épargné jusque-là l'horrible spectacle et enlevé le souvenir. Brutalement, le premier réveillait l'autre. Il frissonnait de froid et d'angoisse, à présent que les morts, par lui repoussés, ne le protégeaient plus contre la bise glaciale, et qu'il se rendait compte du fatal résultat de la lutte. Ce résultat, il l'avait prévu pourtant, car vers la fin du combat, sans qu'il eût cessé encore, mais laissant pressentir la défaite, porte-drapeau, il avait songé au sauvetage de l'étendard national et, avant de tomber, l'arrachant de la hampe qu'il brisa, il l'avait plié sur sa poitrine afin que le dernier battement de son cœur, s'il succombait, fût pour lui. Autour de lui, continuait de régner l'absolu silence. Il voulut se rendre compte de sa situation, vit le camp ennemi à peu de distance, remuant, éclairant, se disposant au repos, et perdit tout espoir d'être ramassé par les siens. Mais alors, son drapeau, il était toujours là, sur sa poitrine qu'il réchauffait, en danger de tomber avec lui aux mains des vainqueurs. Quant à vivre, le malheureux n'y pouvait songer s'il restait là jusqu'au lendemain. Une nuit passée dans les conditions où il se trouvait équivalait à une condamnation à mort. Pourtant, la tête, lourde, comme si elle fût pleine du plomb dont se fabriquent les balles, n'avait aucune blessure. Le drapeau semblait avoir protégé la poitrine, les bras étaient libres. S'il pouvait se dégager. L'ombre envahissait de plus en plus la plaine. Les sentinelles ennemies se trouvaient à une certaine distance, il pourrait leur échapper en rampant et rejoindre peut-être un poste français. Il essaya. Une douleur atroce le rejeta sur le dos. Il avait eu la cuisse brisée par un éclat d'obus et la douleur engourdie par le froid pendant l'évanouissement se réveillait terrible sous l'effort. Aucune fuite n'était possible. Fallait-il donc laisser prendre sa bannière, avec sa personne, par le vainqueur? Il ne le voulait pas. La pensée et le regard n'étaient pas éteints en lui. Il sonda les ténèbres et dans son cerveau, qui commençait à s'enfiévrer, roula l'idée fixe, une force qui peut, aidée par le hasard, comme toutefois, accomplir le miracle. L'officier croyait au drapeau, à la patrie et à la volonté. Depuis un instant, ses yeux restaient fixés sur un objet plus noir que la nuit, puisqu'on l'y distinguait dans l'ombre. Cela remuait, il en était sûr, mais il n'en pouvait découvrir ni la forme ni la grosseur. Son attention devint si absolue qu'il ne sentit plus ni la douleur de sa blessure, ni les morsures du froid. Avec des précautions infinies, une lenteur que pouvait seule expliquer la prudence, un gros matou, clopin clopant, venait vers lui. En droite ligne, coupée pourtant par des montées et des descentes auxquelles le forçait l'inégalité d'un sol couvert de cadavres d'hommes et de chevaux. Le cœur de l'officier se prit à battre la charge. N'était-ce point là l'occasion appelée par son désir? Il se prépara à happer au passage le promeneur nocturne. Pourquoi? Il n'en savait rien encore. Mais c'était un être vivant qui, dans une caresse suprême, lui jetterait peut-être l'inspiration. Malheureusement, le mouvement du bras, si léger qu'il eût été, avait inquiété le promeneur qui s'arrêta, sembla inspecter la plaine de son regard d'émeraude éclairant les ténèbres et aspira longuement l'air en tous sens. Après quoi, il sembla prendre une autre direction. L'occasion allait échapper au blessé qui venait de l'entrevoir.
Mimi, Mimi, viens,
fit-il de sa voix la plus douce, la plus insinuante qu'il put tirer de son larynx desséché. L'animal s'arrêta encore, puis, soit que l'invite lui inspira de la confiance, soit que l'accent suppliant du moribond l'eût touché, il reprit son premier chemin en faisant entendre de temps à autre un miaou souffreteux. Quand il fut pris au piège, un cri plaintif, que l'écho rendit formidable, traversa la plaine, et bon nombre, de loin, aux écoutes, frissonnèrent sans que la pensée d'une simple douleur de chat vînt à aucun. L'officier ne s'y trompa point. Le cri de la bête était cri de souffrance, non de colère. Le retenant d'une main, il chercha de l'autre à se rendre compte. L'animal avait une patte de derrière brisée, et le sang collait tous les poils de sa cuisse et ceux du ventre. Une balle avait dû l'atteindre. De la similitude des blessures naquit la sympathie de l'homme pour la bête. Il la caressa doucement, lui parlant bas. « Ne te plains pas. Si j'avais comme toi quatre pattes, je m'en tirerais, pauvre Minet. Tu ne seras pas prisonnier, toi. Sur tes trois membres valides, tu peux courir à la liberté. » Il tira le drapeau de sa cachette. Les longs et épais poils du chat échauffaient ses doigts gelés. De la main libre et des dents, il déchira une bande de l'étoffe précieuse. Ça valait encore mieux que de la laisser prendre aux Prussiens. On eût dit que le chat comprenait. Il s'était allongé sur la poitrine du blessé et se laissait faire. C'est que le bandage improvisé de sa patte le soulageait. C'était à présent un membre raide, mais le morceau brisé ne pendait plus, liant les chairs et heurtant les os. Ce n'était pas tout. Une bande du drapeau se trouvait enlevée, mais le reste, il fallait encore en arracher une, bien étroite, pour servir de corde. Puis, non sans peine, mais avec succès, le tout fut enroulé autour du corps de l'animal. La couleur bleue en dessus, parce qu'elle restait sombre dans l'obscurité. Cela fait, l'officier serra la bête sur son cœur qui continuait de battre violemment, baisa plusieurs fois avec passion l'étoffe arrachée au triomphe ennemi et d'une voix tremblante d'émotion dit simplement « Allez !» Ils étaient deux, un être et une chose, l'un devant sauver l'autre. L'anxiété du blessé dura encore une minute. À nouveau, le sauveteur, inconscient, hésitait sur la direction à prendre. N'allait-il pas porter au vainqueur maudit le trophée qu'il avait tenté de lui soustraire ? L'animal, le museau en l'air, cherchait sa voie. Il la trouva sans doute, car bientôt, il marcha vite vers des bâtisses blanches, fantômes qui se dressaient dans la nuit, à l'opposé du camp prussien. Alors, l'officier se laissa retomber, ferma les yeux pour le sommeil ou pour la mort, murmurant, comme un rêve heureux, « Ils n'auront point celui-là. » Le silence redevint complet dans toute l'étendue du charnier. L'aile de la mort n'a pas de bruissement. Elle passait lugubre sur les lasses dont elle emportait le dernier souffle. 18 mois ont passé sur ces douloureux événements. C'est le printemps. Les hommes se souviennent, mais la nature a oublié. Elle ne parle que d'espérance. Aux environs de Buzenval, sur la tombe des morts, insectes et oiseaux, devisent d'amour. Tout près, un homme est debout. Il est jeune encore, quoique sa chevelure soit blanche, et il s'appuie sur une grosse canne, ce qu'explique sa jambe de bois. C'est le porte-drapeau que la mort a oublié sur le champ de bataille où il s'est endormi pendant la nuit terrible, pour se réveiller, il n'a jamais pu s'expliquer comment, dans une ambulance. Il a résisté à l'atroce opération qui lui a été faite. Il souffre encore parfois, mais l'apaisement se fait chaque jour et il n'a plus qu'un désir dans son impuissance d'amputer, savoir ce qu'est devenu son drapeau. C'est cette pensée qui l'amène sur le champ de bataille, redevenue plaine riante, où il s'efforce en vain de retrouver quelques souvenirs lugubres. La France a repris déjà haleine et vit. comme l'athlète qu'une surprise a jeté par terre et qui se relève prêt à la lutte nouvelle. Elle dédaigne la plainte et n'a plus que des sourires. L'invalide, cependant, est envahie par une tristesse profonde. Est-ce la tombe qui salue qui la cause ? Est-ce l'oubli de la nature quand il se souvient, lui ? L'indifférence du soleil qui éclaire et chauffe le lendemain comme il éclairait et chauffait la veille ? Il ne saurait le dire, mais c'est avec effort qu'il s'arrache pour agir à la contemplation douloureuse. Peut-être dans le pays lui donnerait-on des nouvelles de son drapeau et de son chat, car il y pense aussi à la pauvre bête qui a dû périr ou se sauver avec le trésor qu'il emportait. Après tout, pourquoi aurait-il péri ? Il en est bien revenu, lui. Il marche, un peu au hasard, songeur, une sorte d'auberge, comme on en trouve aux environs de Paris, moitié garnie, moitié marchand de vin, offre sa porte ouverte. Il y entre. Quand il se sera rafraîchi, il interrogera. Tout à coup, sur un ton d'appel, un mot qui a toujours son écho dans le cœur d'un soldat lui fait dresser l'oreille. « Patriote ! Patriote ! Viens donc ! La table est mise !» Qui donc peut s'appeler patriote dans la maison ? Un gros chat noir, dodu, aux longs poils lisses, à la paupière paresseusement soulevée, s'approche, bâillant et s'étirant. « Allons donc, paresseux !» Un miaou répond, le miaou d'un privilégié qui semble dire « On peut m'attendre !» Le chat marche sur trois pattes, l'autre, cassé, et replié sous son corps gras où la cache en partie de longs poils d'angora. L'ex-officier, curieux, jette son coup d'œil par la porte entrouverte, puis se précipite dans la chambre à coucher de l'aubergiste. Il y a là un homme, une femme, deux enfants autour d'une table. Entre ces derniers, une chaise vide, celle de patriote, que la petite fille prend doucement et y dépose avec un soin qui ressemble à du respect. « Ce chat ?» demanda l'invalide pâlissant. « Oh, c'est toute une histoire !» On lui raconte. Le chat était de la maison. On l'y avait oublié pour la fuite à l'approche de l'ennemi. Puis, au retour, on l'avait retrouvé dans un coin noir, mourant, blotti pour cacher la dépouille dont quelques soldats l'avaient chargé. On n'aurait pas enlevé à ces braves gens la croyance au miracle qui avait fait de l'animal un patriote conscient. À son tour, l'ex-officier raconta, et le potage eût été oublié si patriote n'eût allongé impérieusement la patte avec un grondement de despote qui n'a pas l'habitude d'attendre. Mais le drapeau, où est-il ? On ouvrit la porte d'une pièce voisine et, comme tous s'étaient levés, tous saluèrent. Dans la grande salle, au milieu de fleurs et de couronnes qui formaient une espèce d'autel, le drapeau flottait, artistiquement rapiécé. Il n'y manquait rien. Au-dessous, une grande corbeille capitonnée, vide, eut ce moment. C'était le lit de patriotes. Ces braves gens n'avaient pas voulu le séparer de la dépouille qu'il leur avait apportée. La prospérité change les hommes et les chats. Patriotes, choyés, encensés, baptisés quelqu'un et portés sur le pavois, a pris des défauts de despote. Il est gourmand, capricieux, répond aux flatteries et aux caresses, quand elles ne choisissent pas son heure par ingrates égratignures. Bah, le drapeau est à la fois son trône et son égide. Sur ce piédestal, sous cette grande ombre, les défauts se cachent. « Vous viendrez souvent partager notre repas de famille, lieutenant, » dit l'aubergiste, en ajoutant à l'invitation une vigoureuse poignée de main. « Ça nous fera plaisir et aussi à patriote !» Patriote faisait la sieste. La caresse d'adieu le dérangea. Il allongea la patte et, certes, elle n'était pas de velours. Tout le monde rit. Avec une indifférence royale, Patriote se repelotonna pour le sommeil. De la vie du porte-drapeau, cette heure fut la plus belle. Il me l'a dit bien souvent.